Dimanche, Alice reste en famille. Pep me rejoint à Ginza et me suggère de lui montrer un endroit où j'ai des souvenirs. Je l'emmène au parc d'Ueno. Quand on a tout oublié de Tokyo, on se rappelle encore le vaste parc des familles. Nous nous y promenons longuement. Mon ami me demande quel genre d'activité j'avais ici il y a 30 ans. « Aucune », réponds-je.
« Ça ne m'étonne pas de toi. »
Je n'essaie pas de savoir ce qu'elle veut dire. Je sens que ce ne serait pas à mon avantage. Qu'appelle-t-elle avoir une activité ? Cela sonne comme avoir piscine quand on est petit. Non, je n'ai jamais eu cela, heureusement. J'ai vécu 2 ans à Tokyo, cela signifie j'ai travaillé, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai aimé. Quoi d'autre ?
Quand tu es venu ici en 2012, tu te souvenais de Tokyo ?
Interroge-t-elle.
Oui, très bien même.
Que s'est-il passé ces 11 dernières années pour que tu aies perdu la mémoire ? Bonne question. Rien de particulier. Je finis par dire « Mon père est mort. »
« Oh non, encore ? Tu ne vas pas remettre ça. »
C'était la seule réponse possible à ta question.
Et alors, la mort du père, ça rend amnésique ?
Ça change le cerveau.
Je te connais depuis 25 ans. J'ai connu ton père. Vous n'étiez pas si proche.
C'est vrai. Il est mort et il m'est devenu terriblement proche.
Le parc d'Ueno, c'est quoi pour toi ?
Dis la première chose qui te vient. Mishima. Les rendez-vous interlopes. Les couleurs interdites.
J'adore Mishima.
Mais quels sont tes souvenirs à toi ? Qu'ai-je de plus personnel qu'un brûlant souvenir de lecture ?
Mais quand tu avais 20 ans, tu venais bien ici, tu faisais des découvertes. Raconte !
Cela ne m'a pas marqué. Quand je venais ici, j'essayais d'imaginer les rendez-vous interlopes des homosexuels de Mishima.
Pas mal. Bon, on va aller se fabriquer des souvenirs personnels.
Nous nous asseyons à la terrasse d'un café au cœur du parc d'Ueno. Pep commande une bière et moi un thé.
« Tu es tellement tourné vers le passé, » dit-elle. « Moi, je te propose le présent. C'est intéressant, non ?»
J'opine.
« Joue le jeu, » poursuit-elle. « Sois là pour de bon. Tokyo 2023, ça vaut la peine de répondre présent. »
Je me concentre.
« Faut-il que je parle ?»«
Non, »
dit Pep. « Sois totalement là. Ça te regarde. »
J'essaye. Mes yeux explorent ce qu'il y a autour de nous. Aux autres tables, des Tokyoïtes boivent des verres. Le temps de ce 28 mai est exceptionnel, beau, sans être trop chaud. Les gens jouissent de cette lumière délicieuse. Dimanche, jour dévolu au vide. Le vide au Japon n'est pas ce qu'il est chez nous. Ici, le vide, c'est la merveille. C'est ce que l'on recherche. Le vide, c'est l'occasion de vivre enfin.
En Europe, le vide du dimanche est connu et sinistre.
Nous n'avons pas réussi à l'apprivoiser. Ne sommes-nous pas absurdes ? Un jour sans emploi du temps, ce devrait être le Graal. Ici, ça l'est. Quelques tables plus loin, 2 jeunes Tokyoïtes prennent le thé. L'une d'elles, très jolie, porte une robe en soie vert jade. Une telle élégance, à 20 ans, pour un rendez-vous amical, ne choque pas dans un pays où c'est le laisser-aller qui froisse. Le vert de son vêtement me semble plus subtil qu'au premier regard. Est-ce la nature de l'étoffe qui l'irise de nuances aussi riches ? Je plonge en ce vert tendre comme dans un bain. Ne tend-il pas plutôt vers le vert thé de cérémonie, cette poudre de matcha dont la mode commence chez nous ? Aux antipodes du clinquant d'un vert pomme ou de la soldatesque d'un vert kaki, il chatoie au soleil du printemps. Vert d'eau ? Non plus. Il n'a pas cette crudité bleutée. Je repousse également le vert pulpe de raisin, car cette soie est loin du fruit. Elle n'invite pas à la caresse, elle recherche la contemplation oblique de la politesse. C'est donc par mon œil latéral que je m'abîme dans le spectacle de cette moire. Je connais peu de plaisir aussi grand que de jouir d'une couleur, être en présence d'un coloris stupéfiant, abolir toute autre sensation, ne plus percevoir que cette vibration particulière de la lumière, puisque la couleur traduit le spectre en un langage intime que nous appelons bleu, rouge, en l'occurrence vert. Je nommerai cette nuance
le jade de cérémonie. Je réagis comme si j'avais pris des champignons hallucinogènes. Pourtant, je n'ai bu que le plus ordinaire des thés. C'est le charme de ce verre pâle qui me vaut ce trouble exquis. J'ai l'impression que plus rien ne compte pour moi sur terre que la volupté de cette obsession chromatique. Si j'essaye de regarder ailleurs, le tropisme m'aimante aussitôt en direction de la couleur événementielle. Qu'importe de ne plus avoir de souvenirs incarnés dans cette ville. Il fallait peut-être cette table rase pour que Tokyo devienne, dans ma mémoire, uniquement la suavité de ce verre. Je suis comme le personnage d'À rebours, lui qui consacre son énergie à débusquer la couleur parfaite et à s'y immerger, chez lui, l'oranger. Quand j'avais lu Huysmans pour la première fois à 18 ans, je m'étais interrogée sur la possibilité de vivre la couleur de façon à ce point paroxystique. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question, mais je la vis. C'est d'autant plus fabuleux que ce vert n'est pas ma couleur préférée, qu'il est le vieil or. Mais là, je donnerais tout en ce monde pour demeurer éternellement dans l'orbite de cette nuance délectable. Pep me sort de cette torpeur. J'ai envie d'aller au bain de l'hôtel. Combien de temps a duré mon idylle avec le céladon ? 10 minutes ou 2 heures ? Impossible à savoir. Brusquement arrachée à la contemplation, je suis mon amie dans le métro. Je n'ai pas réussi à obtenir l'annulation de ma réservation à l'hôtel, dit-elle. Qu'au moins ça me serve à fréquenter leur bain traditionnel. Il paraît qu'ils sont de première classe. Nous descendons au sous-sol de l'établissement. Il faut montrer patte blanche, le bain est sévèrement gardé. On nous rappelle le règlement. Nous n'avons pas le droit d'entrer dans l'honorable bain public si nous ne nous sommes pas d'abord récurés de pied en cap et rincés méticuleusement. Un addendum qui m'était inconnu stipule que le bain est rigoureusement interdit à quiconque porte un tatouage. De mon temps, ce point n'était jamais mentionné. Sans doute parce qu'à l'époque, le tatouage était rare et réservé au milieu interlope. Aujourd'hui, toute personne de moins de 35 ans est tatouée, quelle que soit son origine sociale. Je me demande si ces jeunes gens renoncent pour autant au bain traditionnel. Car je m'aperçois qu'il n'y a pas de vérification. Dans un pays où la loi est à ce point respectée, l'autorité considère que l'énoncé de l'interdit suffit. Pep et moi avons respectivement la quarantaine et la cinquantaine. Nous n'avons pas à mentir, nous ne sommes pas tatoués. On nous distribue des serviettes et des yukatas. Nous entrons dans les bains pour femmes. Auparavant, c'était mixte, dis-je à Pep. Il n'y a personne. Dans la salle d'eau, chacune s'installe devant son baquet et son robinet. Nous nous frottons à l'éponge et au savon, nous nettoyons à fond tout ce qui peut l'être et puis nous nous rinçons longuement à la douche. Il nous semble avoir atteint une propreté sans équivalent. Plus rien ne s'oppose à la cérémonie, nous entrons ensemble dans l'un des bains géants. Pep pousse un cri. « C'est bouillant !» Ça l'est. À la base, l'honorable bain est conçu pour survivre à l'hiver nippon. Rares étaient les maisons chauffées. Avant de se coucher, on s'immergeait en un bain fumant afin de se transformer en bouillotte humaine jusqu'au lendemain matin. Sinon, trouver le sommeil s'avérait chimérique. Un 28 mai par un printemps radieux, il n'existe aucune nécessité de s'imposer une eau d'une température pareille. Pour ma part, j'apprécie, consciente cependant du danger, d'y rester longtemps. Je raconte à mon ami que je me suis souvent évanouie dans l'honorable bain, provoquant le plus grand embarras, car les autres baigneuses n'osaient pas me secourir. Et comment tu as évité la noyade ? Boire la tasse m'a toujours réveillée. Il n'empêche, c'est une sensation affreuse. Je sors pour ne pas risquer la syncope. Je m'assieds par terre, j'ai la tête qui tourne. Les autres bains sont-ils différents ? Oui, ils sont encore plus chauds. Pep les essaye aussitôt. « J'ai l'impression de cuire, » dit-elle. « Pas question que je te rejoigne. Si une tatouée arrive, je la dénonce. Pourquoi ? Pour avoir les bains rien que pour nous. » Une femme entre dans la pièce. Tandis qu'elle se récure, nous l'observons. Pas l'ombre d'un tatouage. Pep décide que l'expérience a assez duré. Nous allons nous rhabiller. « J'ai adoré, » dit mon ami. « Je me sens mollassonne. » dis-je. « On va boire des verres, »
ça te requinquera. » Elle trouve l'adresse d'un bar branché sur son smartphone. Je la suis en titubant jusqu'à un sous-sol où mon air vaseux suscite la méfiance. « Votre ami est déjà ivre ?» déclare le portier d'un ton très gêné. « Non !» répond Pep. « Elle n'a pas l'habitude de se laver. » Je n'ai pas la force de me défendre, je voudrais m'affaler. Pep s'assied au bar, d'où on la déloge illico. « Attendez d'être placé !» lui assène-t-on comme on parlerait à un cas social. Mon amie me murmure à l'oreille qu'elle pensait être au bar et non à Buckingham Palace. Comment ne pas lui donner raison? Rien n'est moins cool qu'un bar tokyoïte. Je lui assure que dans le Kansai, ce n'est pas ainsi. On finit par nous placer au bar, deux sièges plus loin. Un barista aussi charmant que le portier était odieux vient nous conseiller. Pep discute pendant 20 minutes, heureuse que l'on sonde ses goûts avec une telle minutie, avant de choisir le cocktail signature. Il me reste juste assez d'esprit pour demander un whisky nippon, dont le nom disparaît de ma mémoire à la seconde où je le prononce. Nous trinquons. Pep sirote avec un plaisir non dissimulé. J'avale mon whisky d'un trait. Ma tension remonte en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. « Ça va mieux, » dis-je. « Tu sais ce qui m'intrigue ? Tu n'as pas bu une goutte de champagne en 8 jours. Ça ne te manque pas ? Sidéré, je m'aperçois que je n'y ai même pas pensé. « On en commande ?» suggère Pep. « Si seulement je le désirais. » Il faut croire que je me suis adaptée à l'environnement pour oublier ma dépendance. Mon amour du champagne est en partie un facteur de psychologie sociale. Je suis née dans un milieu dont il constitue la langue paternelle. En boire, ce n'est pas uniquement s'adonner au plaisir ou célébrer un événement, c'est adhérer aux valeurs de la haute diplomatie. J'ai vu si souvent mon père recevoir en ami précieux des êtres qu'il vouait aux gémonies. S'il y parvenait avec tant de grâce, nul doute que la flûte dont il ne se départait pas y était pour beaucoup. Pour noyer le poisson, je dis à mon ami « Les Français sont évidemment les plus grands consommateurs de champagne au monde. Sais-tu qui a la médaille d'argent ?»«
Si tu me poses la question, c'est que ce sont les Belges. » »«
Oui, n'est-ce pas admirable qu'un peuple qui boit tant de bière soit le deuxième plus important consommateur de champagne ?»«
Surtout à cause de toi. »
N'oublie pas mon père. C'est vrai, quelle descente. Et quand il ne buvait pas du champagne, que buvait-il?
Du whisky?
Je lève mon verre en signe d'assentiment. Le barista en conclut qu'il faut me le re-remplir. Pep esquisse le geste connu dans l'univers entier qui signifie qu'elle attend la petite sœur.
C'est donc en hommage à ton père que tu bois exclusivement du whisky ici?
Pas seulement. Jusqu'à preuve du contraire, les Japonais ne font pas de champagne. Alors, qu'en matière de whisky, ils se défendent de mieux en mieux.
Pourquoi ne bois-tu pas de saké ?
Je ne l'aime qu'en montagne, au coucher du soleil, devant le portique d'un temple Shinto quand sonne la cloche.
Combien tu me donnes pour que je ne révèle à personne que tu as passé 8 jours sans toucher à ton élixir magique ?
Dire que je me suis bâti une telle réputation et que tu vas la détruire par des ragots ?
On peut s'arranger.
Paye la tournée.
Ça va de soi.
Notre conversation commence à s'effilocher. Mon ami essaye chaque cocktail préconisé par le barista. Je vide la bouteille de whisky au nom oblitéré. Vient le moment où je me rappelle qu'Alice éteint les feux vers minuit et qu'il nous faut retourner en cette lointaine banlieue. Si j'avais encore mon jugement, je nous mettrais dans un taxi, mais mes pas me conduisent dans le métro. J'ai vu pas mal de tokyoïtes ivres morts dans les transports urbains. Il garde toujours une certaine tenue. Par bonheur, Pep et moi n'avons pas atteint le point de non-retour. Le miracle se produit. Je l'amène à bon port. Comme chez une vraie japonaise, mon pilotage automatique a intégré la trajectoire habituelle. Pep dévore des fraises achetées à une échoppe tandis que nous marchons à la hâte.
« Des fraises dans le noir », me dit-elle, prouvant que l'ivresse ne l'empêche pas de citer les classiques.
Après l'avoir quitté, je me délecte à l'idée de retrouver à rebours. Ma soulographie est de qualité, je sais que je suis dans l'état idéal pour lire Wismans. L'épisode où des esseintes préparent son voyage à Londres me convulse de rire et de joie. Sans Pep, mes pérégrinations ne dépasseraient pas celles du héros décadent. Je saute sur mon lit. Où suis-je ? Ai-je vraiment habité cette ville ?
Par la fenêtre, je contemple des immeubles qui semblent aussi peu endormis que moi. Je me dis que du sommeil serait nécessaire, je ne sais plus pourquoi.
Parce qu'à 4 heures, tu es supposé te lever pour écrire,
répond le surmoi.
Bon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'a pris de choisir cette voie?
J'essaie de reconstituer mon parcours pour comprendre comment j'en suis arrivée là. Je ne me rappelle que ma petite enfance. C'est ça le problème. Rester coincé à l'âge de 4 ans confère des avantages et des troubles subséquents. Je m'endors, lumière allumée, dans une position improbable. Je me réveille pile à 4 heures du matin. 35 ans d'habitude ne s'effacent pas si facilement. Thé bouillant, écriture. Je me regarde faire, et pourtant c'est moi.